Vous écoutez, on lit pour vous.
Des scientifiques pensent avoir découvert une nouvelle planète naine. Un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Ils étaient à la recherche de la mystérieuse 9e planète. À la place, des scientifiques américains pensent avoir découvert une nouvelle planète naine aux confins du système solaire. Les roches glacées situées dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, ont tendance à suivre une orbite regroupée dans une direction particulière. Il y a 20 ans, des astronomes ont avancé que ce phénomène serait dû à l'attraction gravitationnelle d'une 9e planète pouvant être 10 fois plus massive que la Terre, qui aurait échappé à toutes les observations. C'est en recherchant ce monde mystérieux, dont l'existence fait débat, qu'un trio d'astronomes américains affirme avoir découvert une nouvelle candidate au titre de planète naine. Baptisée 2017 OF-201, l'objet fait environ 700 km de diamètre, selon une étude préliminaire publiée la semaine dernière, qui n'a pas encore été évaluée par des pairs. 3 fois plus petit que Pluton, mais suffisamment grand pour entrer dans la catégorie des planètes naines, a indiqué à l'AFP le principal auteur de l'étude, Xiao Chang, de l'Institut des études avancées du New Jersey aux États-Unis. L'objet est actuellement 3 fois plus éloigné de la Terre que Neptune, mais son orbite extrêmement allongée l'amène à plus de 1600 fois la distance entre la Terre et le Soleil jusqu'au nuage d'Oort, à la frontière du système solaire. Au cours de ce voyage de 25 000 ans, l'objet ne serait observable de la Terre que 0,5% du temps, soit environ un siècle. Pluton, Cérès, Eris. Il devient déjà de plus en plus faible, note M. Cheng, selon qui cette découverte suggère qu'il pourrait y avoir plusieurs centaines d'objets similaires sur des orbites similaires dans la ceinture de Kuiper. Les chercheurs demandent désormais du temps pour orienter les télescopes James Webb, Hubble et ALMA vers leur découverte. Un astronome amateur californien de 23 ans, Sam Dean, avait déjà réussi à suivre la candidate planète naine sur d'anciennes bases de données. OF-201 est, selon moi, probablement une des découvertes les plus intéressantes du système solaire externe depuis une décennie, a-t-il dit à l'AFP. Après sa découverte en 1930, Pluton a porté un temps le titre de 9e planète du système solaire. Avant d'être rétrogradé au rang de planète naine en 2006, notamment en raison de sa petite taille, elle est plus petite que notre Lune. Notre système en compte 4 autres, Cérès, Eris, Makemake et Oméa. Quand les chercheurs ont modélisé l'orbite de 2017 OF-201, ils ont découvert qu'elle ne suivait pas la tendance regroupée des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, ce qui pourrait remettre en question l'hypothèse de l'existence d'une 9e planète. Des données supplémentaires sont nécessaires, insiste M. Cheng. Cette formidable découverte et d'autres similaires signifient que l'argument initial en faveur de l'existence d'une 9e planète devient de plus en plus faible, estime de son côté Samantha Lawler, chercheuse à l'Université canadienne de Regina. Nous sommes à une époque où de gros télescopes peuvent presque voir les confins de l'univers, mais notre jardin reste largement un mystère, note M. Cheng. Il espère obtenir des réponses sur la 9e planète grâce à l'observatoire Vera Rubin, qui doit entrer en service cette année au Chili. Je ne pense pas que nous aurons à nous poser la question de son existence encore très longtemps, juge de son côté M. Dean. C'était « Des scientifiques pensent avoir découvert une nouvelle planète naine », un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
La météo à l'heure de l'IA. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 juin 2025 dans la presse. La météo est influencée à la fois par des phénomènes microscopiques, régionaux et planétaires, et même d'infimes variations peuvent avoir un effet important. Mais la science a permis de raffiner les prévisions météorologiques au fil des années, et l'intelligence artificielle, IA, devrait permettre encore plus de précision. Les systèmes météorologiques sont basés sur de la physique complexe, explique Pari Perdikakis, ingénieur mécanique de l'Université de Pennsylvanie, qui travaille à l'application de l'intelligence artificielle aux prévisions météo. En plus, ce sont des systèmes chaotiques, très sensibles à des variations minimes. Le mieux qu'on peut faire est de combiner plusieurs modèles météorologiques pour éliminer les erreurs et les biais de chaque modèle. Néanmoins, la justesse des prédictions s'améliore à un rythme de 5 à 10 % par décennie, ce qui correspond à une à deux journées supplémentaires dans l'avenir, souligne M. Perdikakis. Et l'intelligence artificielle va permettre de soutenir cette cadence, voire de l'accélérer. Le chercheur vient de publier dans la revue Nature une étude montrant qu'Aurora, un modèle d'IA de Microsoft, est meilleur que 92 % des modèles météorologiques élaborés par des humains pour des prévisions sur 10 jours. De plus, Aurora permet des prévisions régionales plus précises. Les modèles météorologiques actuels produisent les mêmes prévisions pour des secteurs dans un rayon de 30 km, tandis qu'Aurora peut faire des prévisions différentes pour deux villes situées à 10 km l'une de l'autre. Selon l'étude de Pari Perdikakis, Aurora a permis de prédire avec exactitude que le typhon Doksuri, en 2023, frapperait les Philippines, alors que les autres modèles météorologiques le voyaient plutôt balayer Taïwan. Aurora a prévu 4 jours à l'avance la force et l'itinéraire de Doksuri qui a causé 28 milliards US de dommages. L'ingénieur a aussi testé Aurora avec la tempête Ciaran, qui a fait 21 morts en Europe à l'automne 2023 avec des vents de 160 km/h dans la Manche. Encore une fois, Aurora est tombée pile poil, alors que les modèles utilisés actuellement n'ont pas permis d'entrevoir que Ciaran serait aussi dévastatrice. Dans la dernière décennie, de plus en plus d'études ont tenté de comprendre les fiascos de prévision, forecast bust. Par exemple, une étude publiée en 2018 dans le Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society a conclu que des erreurs répétées de prévision en Europe sont liées à quelques phénomènes, notamment une perturbation au large de Terre-Neuve et des masses d'air immobiles, anticyclones, au large de la France. Boîte noire. L'IA est problématique dans plusieurs domaines parce que les scientifiques ne comprennent pas toujours comment elle est arrivée à ses conclusions. Est-ce que cela va se produire en météorologie et ralentir la progression de la modélisation physique de l'atmosphère? Pari Perdikakis, ingénieur mécanique à l'Université de Pennsylvanie, confirme « Oui, l'IA est une boîte noire, mais je crois qu'il sera possible de déduire de ses succès une meilleure compréhension des processus physico-chimiques de l'atmosphère. À tout le moins, l'IA va permettre de mieux identifier les risques d'erreur, selon l'ingénieur de Philadelphie. Avec cette information, on va pouvoir travailler sur les sections des modèles météorologiques qui nécessitent le plus d'amélioration, observait-il. La météorologie moderne est née en 1839 quand l'écrivain et peintre naturaliste britannique John Ruskin a prononcé un discours dans lequel il a prédit qu'il serait un jour possible de prévoir la météo partout dans le monde. Les premières équations décrivant l'atmosphère ont été produites à la fin du 19e siècle et les ordinateurs des années 1950 ont permis de les utiliser pour prédire le temps qu'il fera. Le premier modèle planétaire de prévision météorologique a été élaboré en 1969 par Environnement Canada. En savoir plus, source, Organisation météorologique mondiale. 28. Nombre de satellites météorologiques en 1969. 322. Nombre de satellites météorologiques en 2025. C'était « La météo à l'heure de l'IA », un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 juin 2025 dans La Presse.
Instruit mais inculte, un texte de Mathieu Bellil, paru le 19 juin 2025 dans La Presse. Dans un hommage senti, paru dernièrement dans Le Devoir, Jean-François Nadeau citait le regretté Victor Lévy-Beaulieu. Le problème au Québec, c'est qu'on a confondu instruction et culture. On a créé en série des gens instruits, mais incultes. On le voit, VLB n'était pas le genre d'écrivain lisse et consensuel qui distribue les mamours et les politesses. Il ne jouait pas les jolis cœurs. Il avait horreur du small talk et des faiseurs d'images, ne croyait pas à la littérature qui fait du bien, mais à celle qui dit vrai. À ses yeux, l'artiste devait dire sa vérité ou bien se taire. Quelques jours après sa mort, la vérité contenue dans cette formule choc « instruit mais inculte » m'a frappé de plein fouet. Comment en sommes-nous arrivés, selon les mots de VLB, à une société éduquée mais sans culture? Je me souviens d'un slogan popularisé par le gouvernement Le Sage au début des années 1960. Qui s'instruit s'enrichit. À l'époque, le Québec accusait un retard important sur le reste de l'Amérique. Et le grand rattrapage, c'était l'évidence, devait passer par l'éducation. Avec la construction d'écoles, de cégeps et d'universités, et grâce à des politiques favorisant l'accès des plus démunis aux aides de l'État, la Révolution tranquille a rempli une partie de ses promesses. De nouvelles générations, y compris la mienne, ont eu la chance de poursuivre des études supérieures et de contribuer au progrès de la société. Mais vous l'avouerai-je, ces jours-ci, ma foi dans le fameux modèle québécois vacille. Et si je m'inquiète, c'est parce qu'il m'apparaît de plus en plus clair que l'enrichissement favorisé par l'instruction n'a pas débouché sur une culture forte et consciente d'elle-même, qu'en dépit de tout ce qui a pu favoriser notre essor, nous sommes restés pauvres. Adeptes du rafistolage et des économies de bout de chandelle, du bas de gamme et du broche à foin, naviguant le plus souvent à courte vue, au gré des modes et des humeurs, rechignant à voir large et loin, sans grand intérêt pour le patrimoine et la suite du monde. Comme si une partie de nous était demeurée en mode survie. Le scandale Saclic, qui fait la manchette depuis quelques semaines, a valeur de symbole. Il tient précisément à une forme d'inculture, qui est la pire de toutes, parce que bardée de diplômes, et pourtant incapable de la moindre envergure. Dans cette histoire, des ingénieurs, des gestionnaires, des comptables et des hauts fonctionnaires, tous gens compétents dans leur domaine, ont été incapables de faire preuve de jugement. Certains ont cédé à l'envie de favoriser des amis ou de piger dans la caisse, l'occasion leur semblant trop belle. D'autres ont ignoré les avertissements et préféré ne rien voir, quitte à mentir ou à maquiller la vérité. Tous ces gens instruits se sont comportés en idiots. L'idiot, au sens étymologique, du grec ancien « idiotesse », un peu de culture, est ainsi désigné parce qu'on le juge incapable de participer à la vie de la cité. Il ne parvient pas à sortir de lui-même, n'entre en relation avec personne, vit seul sur son île. Or, c'est exactement ce que le scandale Saclic a révélé. Tous ces gens n'ont pas eu le moindre égard pour l'argent des contribuables, ni pour le mandat confié par le gouvernement, comme si rien de tout cela ne les engageait, qu'ils avaient oublié qu'ils étaient eux-mêmes des citoyens. La commission Charbonneau s'était pourtant attaquée à la corruption 10 ans plus tôt. Or, à l'évidence, ces gens étaient ailleurs, n'écoutaient pas, n'ont rien appris. Le scandale Saclic révèle, à la manière d'un miroir grossissant, quelque chose du Québec actuel. Certains jours, dirait-on, c'est moins à une société que nous avons affaire qu'à une arène où s'affrontent, dans une multitude de petits et grands combats, les intérêts corporatistes et individuels. L'éclatement est partout, économique, politique et social. Tout le monde tire la couverture de son côté, travaille pour son groupe et ses membres, pour sa poche et sa génération, en jugeant que c'est aux autres de payer. Des gens attachés à leur quiétude qui refusent que l'on construise ou joue près de chez eux. D'autres qui opposent une fin de non-recevoir à la moindre velléité de réforme, à tout ce qui pourrait menacer leurs privilèges. Par exemple, les syndicats de médecins. Après nous, le déluge. Entouré d'affairistes de tout acabit, le gouvernement lui-même ne semble plus savoir comment faire triompher l'intérêt général. L'ajout de structures nouvelles pour venir à bout de structures anciennes, le mammouth de la santé, le paquebot de l'éducation, l'énigme des transports, donne l'impression que le pouvoir politique a abdiqué en faveur de la bureaucratie, qu'en face de tous ces comités et ces organigrammes, de tous ces instituts de ceci et régis de cela, il n'a rien su faire d'autre qu'en créer de nouveaux. Avec pour résultat que plus personne ne trouve son chemin dans les dédales de l'administration, désormais peuplée de gestionnaires et autres middlemen, qui se renvoient la balle. Trop souvent, ces dernières années, la machine étatique a donné l'impression de fonctionner en vase clos, de parler une langue incompréhensible, de se servir elle-même, comme si dans ses actions elle avait perdu de vue le sens commun. Et pourtant, malgré les ruptures de services et les pénuries, malgré le gaspillage et les piètres rendements, en dépit de tout ce qui cloche et sous-performe, une chose n'a pas varié. Les salaires et les primes de ses dirigeants ont continué d'augmenter à un rythme gênant, au nom d'une logique de marché qui est en vérité une logique de caste. Pour sortir de l'entre-soi et du chacun pour soi, il reste encore à trouver ou retrouver le sens de la culture véritable, celle qui permet de nous ancrer dans le territoire et la durée, de voir dans l'autre un semblable, de nourrir l'appartenance à une communauté, de reconnaître que dans ce monde, tout est lié. VLB, lui, avait bien compris que la vie n'est rien sans le beau, le juste et le vrai, que personne n'est une île. Un homme seul ne peut rien. Il lui faut l'appui de ses semblables pour arriver là où il doit aller. C'était « Instruit mais inculte », un texte de Mathieu Bellil, paru le 19 juin 2025 dans la presse.
Annie Proulx, se rassembler autour des livres. Propos recueillis par Alexandra Mignot, paru le 10 juin 2025 dans Les libraires. Chapeauté par l'Association des libraires du Québec, ALQ, le prix d'excellence, qui souligne depuis 2013 le travail exceptionnel des libraires, a récompensé Annie Proulx cette année. Œuvrant depuis 35 ans à la librairie A à Z, à Bécomo, la lauréate, grande ambassadrice des livres et du métier de libraire, est reconnue pour son engagement et sa passion. Elle nous en dévoile davantage sur son parcours et ses lectures. Pourquoi avez-vous choisi le métier de libraire?
Je dirais que c'est plutôt la librairie qui m'a choisi. À l'époque, je travaillais déjà en bibliothèque, quand une amie m'a proposé de remplacer une employée à temps partiel qui quittait son poste. J'ai accepté, tout en gardant mon emploi à la bibliothèque, ce qui m'a amené à travailler 7 jours sur 7. Quelques mois plus tard, la librairie m'a offert un autre poste, soit celui de gérante, pour un remplacement de congé sabbatique, et je n'en suis jamais reparti. C'est un métier passionnant. Chaque matin, c'est un vrai bonheur de venir travailler. Quel est votre plus beau souvenir comme libraire?
Sans aucun doute, mon plus beau souvenir est ma participation au Festival du Livre de Paris en 2011. Je me souviens encore du moment où Karine Vachon, de Québec Édition, m'a appelée en plein mois de décembre. Je n'y croyais pas. Je n'avais jamais postulé pour quoi que ce soit. Je pensais même que c'était une blague. Elle m'a expliqué que c'était l'ALQ qui avait proposé mon nom. J'étais sans voix. C'est un souvenir marquant et très émouvant. Que représente pour vous le fait de recevoir le prix d'excellence?
Je suis extrêmement fière et honorée. Ce prix est une véritable reconnaissance pour les libraires et il signifie beaucoup pour moi. Recevoir un tel honneur en étant sur la côte nord rend cette distinction encore plus précieuse.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les conseils littéraires. Réussir à mettre le bon livre entre les mains du bon lecteur et surtout, les voir revenir pour en redemander. C'est une vraie source de joie. J'ai aussi un réel plaisir à m'occuper des collectivités, les aider dans leurs choix, les conseiller sur les dernières nouveautés, effectuer des recherches, et surtout le contact humain, derrière tout cela qui est important. C'est vraiment créer des liens de confiance.
Quelle importance la lecture a-t-elle dans votre vie?
La lecture est omniprésente dans ma vie. Je lis partout, tout le temps. J'ai souvent plusieurs livres en cours en même temps. Je suis une lectrice curieuse, avide de découvertes, et je lis de tout. J'ai des piles de livres partout dans la maison.
Vous avez donné vie à des projets comme « Livres et latte » et « L'escapade littéraire du mardi ». Parlez-nous de ces projets.
Ces deux projets sont nés d'une envie d'organiser des clubs de lecture, l'un dans un café, l'autre à la bibliothèque. Pour « Livres et latte », nous avons adopté une approche plus libre. Je propose des coups de cœur et les participants sont invités à lire ou simplement à échanger entre eux. Quant à l'escapade littéraire du mardi, il s'agit d'un club de lecture plus traditionnel où chacun partage ses lectures. Mon objectif avec ces initiatives est d'encourager la découverte de nouveaux genres littéraires et de rendre accessible la poésie, les essais ou encore la bande dessinée à celles et ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux. En quoi votre implication en dehors de la librairie est-elle importante pour vous? C'est essentiel pour moi, car cela permet à la librairie de rayonner au-delà de ses murs. Cela me permet d'aller à la rencontre des lecteurs et de rendre la librairie plus accessible, plus vivante, plus proche de la communauté. Selon vous, En quoi la librairie est-elle un lieu essentiel à une société, à un quartier? Et dans le cas de A à Z en particulier? La librairie est bien plus qu'un lieu de vente de livres. C'est un espace de rencontre, de dialogue, de culture et d'ouverture sur le monde. Elle joue un rôle clé dans la vie d'un quartier en créant du lien social, en soutenant la vie culturelle locale et en favorisant l'accès au savoir. Dans le cas de la librairie A à Z, c'est un véritable point d'ancrage pour la communauté. Nous y mettons un soin particulier à créer un lieu vivant, accessible, où chacun peut se sentir accueilli, peu importe son niveau de lecture ou ses intérêts. C'est un lieu qui rassemble. Et finalement, quelques questions en rafale afin de mieux connaître la lectrice. Quel livre est associé à votre premier souvenir de lecture? C'est Cendrillon, de la collection Disney, que mes parents avaient acheté chez Grolier. C'était mon préféré. Mon parrain m'avait aussi offert un grand recueil de contes classiques qui a marqué mes premières lectures. J'étais émerveillée par toutes ces histoires. Vers 10-11 ans, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, passionnée par les bandes dessinées, notamment Yoko Tsuno. C'est vers l'âge de 18 ans que je me suis mise au roman, avec une affection particulière pour Dean Koontz. Quel est votre dernier livre lu? À quoi songe-t-il? Ceux que le sommeil fuit? De Gaël Josse, chez Noir sur Blanc. C'est un recueil de micro-nouvelles. J'adore le style littéraire tout en simplicité de Gaël Josse. Quelle sera votre prochaine lecture? La Dèche, d'Hakim Gagnon, chez La Mèche. Quel écrivain ou quelle écrivaine aimeriez-vous que tout le monde découvre? Sans contredit, Michel-Maxime Legault. J'ai eu un coup de cœur pour lui avec son livre Michelin, édition du Quat. C'était Annie Proulx. Se rassembler autour des livres. Propos recueillis par Alexandra Mignot, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.